Bonjour à tous, il est tout juste midi. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table, mais tout de suite les titres du journal de 12h30 présentés par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Selon des chiffres qui ont été publiés hier par l'agence de coordination policière Europol, il y aurait plus de 10 000 enfants de migrants qui auraient disparu en Europe ces deux dernières années. Europol dit redouter que nombre d'entre eux soient exploités, notamment sexuellement, par le crime organisé. Dossier suivi, explication tout à l'heure, donc à 12h30 avec Marie-Pierre Vérot. Moins d'une semaine après avoir démissionné de son poste de ministre de la Justice, Christiane Taubira publie demain un livre intitulé « Murmures à la jeunesse » dans lequel elle critique notamment la déchéance de nationalité. Réflexion sur une stratégie politique avec Benoît Bouscarel. Comme tous les 4 ans, ce sont les électeurs américains de l'Iowa qui vont être les premiers à voter aujourd'hui pour les primaires présidentielles. Donc la démocrate Clinton, le républicain Trump en tête des sondages, mais pas assez pour prédire une victoire certaine. Analyse avec Ludovic Piétenu. On parlera aussi de la première visite d'un chef d'État cubain en France depuis 21 ans maintenant. Raúl Castro a été accueilli ce matin à Paris. Visite qui consacre une normalisation des relations de La Havane avec l'Europe. Et puis l'OMS avait averti la semaine dernière que le virus qui se transmet par une piqûre de moustique, le virus Zika, se propageait de manière explosive. Aujourd'hui, réunion d'urgence donc à Genève sur cette question. L'invité de la séquence interview, Edouard Renker, qui est observateur et co-auteur du livre « Entreprise mutée ou périr » aux éditions L'Archipel. Voilà pour les titres. Caroline, c'est à vous pour la Grande Table.
Merci. Le 20 novembre dernier, nous consacrions notre première partie à un film fleuve de 12h40, sorti initialement en 1972, Out qui ressortait en version intégrale, restaurée dans un coffret DVD et au cinéma. Et puis voilà qu'on a appris vendredi la mort du réalisateur de ce drôle d'objet cinématographique. Un réalisateur qui fut avant tout critique avant de tourner ses propres films, parmi lesquels Dans le désordre, Paris nous appartient, La belle noiseuse, La religieuse de Diderot, Céline et Julie vont en bateau, La bande des quatre, Au bas fragile ou Va savoir, des films d'une grande singularité, une œuvre comme un jeu de piste. Hommage à Jacques Rivette.
Tout le monde dit que je suis fou, même Terry. Que c'est une pièce injouable, incohérente. Mais je m'en fiche. Justement, ce qui me plaît, c'est qu'elle semble faite de pièces et de morceaux, mais que tout se lit sur un même plan. Sur le plan terrestre. Périclès, il a beau parcourir des royaumes, tous les héros partir aux quatre coins du globe, ils n'en sont pas moins enfermés. Ils peuvent se sauver à l'autre bout du monde, ils s'y retrouvent tous, au cinquième acte. Enfin, c'est ce que je voudrais essayer de faire. Vous ne me croyez pas fou?
Non, pas du tout.
Tant mieux, ça me changera. Ce qu'il faut quand même, c'est essayer de le faire comprendre aux gens. C'est la mise en scène d'un monde chaotique, mais pas absurde. Comme celui où nous vivons, qui a l'air de fiche le camp de tous les côtés, mais qui doit savoir où il va. Seulement, il nous le cache bien.
Et pour parler du cinéma de Jacques Rivette, on entendait là un extrait de son premier long métrage, Paris nous appartient, réalisé en 1958. Trois invités sont autour de la table. Pierre-William Glenn, bonjour et bonjour, bienvenue. Bonjour, vous étiez venu nous parler d'Out 1, puisque vous en aviez assuré la restauration. Donc il y a quelques semaines de cela, vous êtes, je le rappelle, directeur de la photographie et réalisateur, et vous aviez été le chef opérateur de Out 1 en son temps. Nathalie Richard est avec nous, bienvenue. Vous êtes comédienne, vous avez tourné dans 4 films de Rivette, La bande des quatre en 88, Jeanne Lapucelle en 93, Au bas fragile en 94 et dans un court-métrage Lumière et compagnie, Les aventures de Ninon en 95. Et puis Antoine Debac est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Historien bien sûr et critique du cinéma. C'est avant tout, quand on lit les hommages qui ont été rendus à Jacques Rivette, c'est avant tout ce qui ressort, un homme qui est dépeint comme mystérieux dans les hommages qui vient de disparaître. On dit qu'il donnait très peu d'interviews. Je pense à un entretien, enfin même un article qu'Alain Rioux, le critique dans le Nouvel Observateur en 1991 lui consacrait, où il disait, au sens propre comme au figuré, nul n'entre chez lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mystère qui rôde autour de Rivette? Pierre-William Glenn.
Je pense qu'on rentre chez lui par les films, c'est-à-dire que le cinéma était son monde et que cette manière de vivre le cinéma de cette manière-là, c'est d'avoir finalement, au bout d'un certain temps, une intimité avec lui. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout, on va dire, extraverti, qui était extrêmement doux, agréable. Mais l'idée de rentrer dans son... On ne rentrait pas chez lui au sens propre du terme, parce qu'il habitait une petite... Un petit appartement dans lequel, effectivement, il y avait peu de possibilités de rencontres pour discuter. On discutait autour du cinéma, dans des décors de cinéma, mais enfin dans les décors de tournage. Mais effectivement, entrer chez lui, au sens propre du terme, peut-être, mais j'ai l'impression que, là, sa mort le prouve, il y a toutes les manières possibles et intelligentes et articulées de rentrer dans son monde à lui. Tous les films qu'il a fait parlent pour lui.
Nathalie Richard.
Oui, je suis d'accord. Après, je dirais pas mystérieux, je dirais plutôt que c'était un homme réservé.
Disons. Secret, plus que mystérieux.
Secret, moi après, avec Jacques, on se voyait aussi en dehors. On est allé prendre des cafés avec Fejria Deliba qui jouait dans la bande des quatre. Ils avaient une grande amitié aussi en dehors. Ce qui était assez rare, mais donc il nous est arrivé de manger au restaurant, voilà, tout ça. Donc il y a un quotidien, en tous les cas, qui a été de temps en temps partagé, mais c'est vrai qu'après, c'était vraiment le moment du film, toutes les discussions, les déambulations, les rêveries, qui étaient peut-être ce que Jacques aussi avait de plus de plaisir à partager avec l'autre. Mais je dirais... C'est vrai qu'au fur et à mesure... C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années et des rencontres, par contre, c'est vrai que Jacques... Quand on le rencontrait, on ne pouvait jamais être... C'est-à-dire qu'il avait une façon aussi assez spéciale de bouger et d'écouter. Donc on était obligé de se déplacer en tous les cas dans l'écoute. On ne pouvait pas être conventionnel avec lui. Il devait y avoir un rapport qui était direct, effectivement très délicat, mais il y avait quelque chose de direct. Il ne pouvait pas y avoir... C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc je dirais plutôt réservé. Après c'est vrai qu'on... Par exemple pour l'appeler, il fallait l'appeler entre telle heure et telle heure. C'était quelqu'un de très rituel. Il allait manger dans certains endroits.
J'ai même lu qu'il lui arrivait de se barricader chez lui et que ses collaborateurs pensaient appeler la police parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il était devenu.
Il répondait que c'est pas qu'il se... on l'a vécu, c'est pas qu'il se barricadait, c'est qu'il ne répondait pas et que peut-être pour ce moment-là, il ne pouvait pas répondre aux pressions de production. Il avait besoin de réfléchir à son truc, de rêver. Et voilà, donc je dirais... Oui, il avait des échappées, mais...
Comme tout un chacun, presque. Exactement. Comme tout, en tous les cas, comme tout créateur. Anton de Bac.
C'était aussi quelqu'un d'intimidant. Alors moi, j'ai jamais travaillé avec lui sur un film, puisque c'est. Mais quand on est jeune critique au Cahier du Cinéma, comme moi je l'ai été pendant une vingtaine d'années.
Et comme lui le fut.
Voilà, et comme lui le fut. Donc ayant l'occasion à la fois de le rencontrer de temps en temps à la sortie de certains films, et puis d'avoir lu son œuvre critique, hein, qui est une œuvre extrêmement importante. C'était quelqu'un qui intimidait au sens où il y avait l'importance de cette œuvre qui est moins importante en masse, en nombre que par un certain nombre d'articles qui arrivent à faire césure. Rivette, c'est aussi ça, sa force de critique. C'est quelqu'un qui écrit des manifestes à travers certains films de ses auteurs, Howard Hawks, Jean Renoir, Rossellini. Il écrit des textes de type décisif, c'est ça, et ça c'est évidemment impressionnant, c'est-à-dire que il y a dans ces textes quelque chose qui est extrêmement clair, extrêmement cinglant, qui nous dit à chaque fois le cinéma c'est cela et il va vers là. Et donc son texte peut-être le plus fameux, sa lettre sur Rossellini, c'est ça, c'est-à-dire le cinéma est chez Rossellini, la modernité est là et c'est cela qu'il faut suivre, ce qui est à la fois très très juste, très c'est une vision presque prophétique au moment où Rossellini est mis en cause de partout à l'époque, et c'est aussi quelque chose de très cinglant, c'est-à-dire que il y a chez Rivette une sorte de certitude et il choisit, et ce qui ne va pas dans son sens, ce qui ne le suit pas dans un certain sens est contre lui, et Rivette est aussi il a un côté moine soldat, il a aussi un très 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 cinglant dans la manière de parler, d'être chef de bande d'une certaine façon. Rivette était quelqu'un de à la fois très qui effaçait sur le retrait. Et en même temps, il adorait le collectif, il adorait les bandes. Et il a fonctionné comme ça dès la cinéphilie. La cinéphilie, c'est un jeu de bandes de garçons, de jeunes garçons, comme ça, qui se sont rencontrés au Cahier du cinéma. Et il était, d'après tous les témoignages, celui qui donnait la ligne. Il était le plus dogmatique, le plus, mais au bon sens du terme, mais aussi au sens parfois du combat. Il y avait chez Rivette quelque chose qui était une forme de certitude et de combattant du cinéma. C'est peut-être celui qui a, avec Truffaut, disons, le plus aimé le cinéma. Et jusqu'au bout, il allait voir des films presque jusqu'au bout.
Une petite définition quand même qui vaut ce qu'elle vaut de ce nouveau cinéma qui est en train de se faire, c'est que les anciens films, enfin le grand cinéma classique, si vivant soit-il, donnait quand même le sentiment, quand on le voyait, d'une œuvre qui avait été préméditée et dont on suivait un déroulement prémédité. Au contraire, les films de Forman ou de Skolimowski ou de Bertolucci, ce sont des films, quand on les voit, on a l'impression que le film est en train de s'inventer au fur et à mesure sur l'écran, au fur et à mesure de la vision même du film. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est d'ailleurs assez proche, non pas par les moyens, mais par le but du nouveau roman, puisque je crois qu'un des buts des nouveaux romanciers, disons l'école telle qu'elle, c'est justement de trouver une forme d'écriture qui mette le lecteur exactement dans le même temps que le romancier, c'est-à-dire que c'est un présent perpétuel.
Qu'est-ce que le nouveau cinéma défini par Jacques Rivette lui-même en 1967 ? Est-ce que c'est ça, sa marque de fabrique ? Je vais poser la question à tous les trois. L'idée que le film qu'on voit sous nos yeux est en train de s'inventer sur l'écran. On a beaucoup glosé, je me souviens, Pierre-William Glenn, dans l'émission qu'on avait faite sur Out 1, sur cette idée d'improvisation. Ça n'a pas l'air d'une improvisation, c'en est une, c'en est pas une. C'est-à-dire on a l'impression que le moindre plan de Rivette est totalement, intégralement pensé, même si on croit qu'il improvise. Alors, quel est ce rapport à ce temps du film en train de se faire et l'impression que ça donne aux spectateurs, Pierre-William Glenn?
Par rapport à ce qu'a dit Antoine, autant c'est quelqu'un d'extrêmement dogmatique et de radical du point de vue de l'écriture, autant du point de vue de la mise en scène, c'est totalement différent. C'est quelqu'un qui est totalement ouvert, c'est-à-dire que les certitudes qu'il manifeste par écrit, sur un plateau, j'ai jamais eu le sentiment qu'il avait quelque certitude que ce soit, et c'était sa force. C'est-à-dire l'idée de cette disponibilité envers tout le monde, disponibilité totale pour les acteurs, pour un récit, comme il y a dit, en train de se faire, est quelque chose qui est sûrement son originalité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, on y va vite, mais on ne sait pas où on va, et cette idée de l'inconnu, et cette idée de l'aventure intellectuelle, mais de l'aventure du film, est tout à fait passionnant. J'ai eu ce sentiment qu'avec lui, en fait, sur une longue carrière. C'est l'idée d'inventer dans le temps, au fur et à mesure, la durée en train de se faire, comme il a dit d'une certaine manière. Cette idée-là, c'est pas dogmatique, c'est laisser aller, lâcher prise, laisser aller, et puis donnez-moi ce que vous avez à me donner, manière pas dogmatique.
Pascal Bonitzer, qui a écrit un certain nombre de scénarios avec Jacques Rivette, dit par exemple, on peut hurler, menacer, ça ne sert à rien. Rivette estime que ces films doivent être à l'image de la vie, avec leurs moments forts et leurs moments faibles, et ils sont en train de se faire en même temps qu'on les tourne. Nathalie Richard, vous avez vécu ça sur les 4 films que vous avez fait avec lui ?
Oui, alors, c'est-à-dire que nous aussi, c'était plus une période d'improvisation, hein, tout le travail à table.
Les années 90, donc.
Voilà, auparavant, effectivement, là, on inventait nos personnages, il y avait tout un travail avec Pascal Bonitzer et Christine Laurent. Mais la trame, on mettait peut-être un mois et demi à fabriquer cette trame, et peut-être que Jacques avait des secrets qu'on allait découvrir sur le tournage. Mais après, les scènes décidées, c'était vraiment les scènes qu'on jouait. Et je dois dire qu'après Jacques, c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait il rentrait par exemple je me souviens pour Au bas fragile, on tournait dans un immense lieu, où il y avait beaucoup, beaucoup de choses, enfin, l'atelier où on danse. Et il arrive, enfin, il voulait tourner d'une certaine façon, puis finalement il a découvert des matières, etc., avec Manu de Chauvigny, qui était son grand décorateur pendant ces nombreuses années. Et il a complètement retransformé la scène en utilisant tous les objets qui pouvaient l'intéresser. Donc il y avait cette capacité à absorber le décor, à utiliser le décor. Après, on pouvait inventer dans la scène, effectivement, mais c'est vrai que c'est vrai que le film est en train de se faire, oui, mais parce que je pense qu'il travaillait aussi sur la position du spectateur. C'est-à-dire qu'on n'allait pas au cinéma par hasard. On devait quand même rentrer et ça devait être une expérience et on pouvait avoir toutes les chances d'en ressortir différemment et peut-être pas forcément le comprendre tout de suite. Et je pense qu'aussi quand des films ont duré aussi longtemps, c'est pas tant que les films duraient aussi longtemps, c'est qu'il y avait une nécessité de temps à ce que ça existe comme ça. Et peut-être avec des plages de creux, tout d'un coup avec des rebondissements, tout d'un coup avec des accélérations. Mais il nous... Et je trouve qu'il a vraiment raison, parce que dans ce monde où tout va tellement vite et tellement linéaire, il redonnait quand même quelque chose d'organique, de pourquoi est-ce qu'on va au spectacle, pourquoi est-ce qu'on va dans une salle de cinéma. Je crois que c'est cette multiplicité, ces possibilités aussi. C'est ça, je trouve, que Jacques avait beaucoup.
C'est peut-être comme ça qu'il faut entendre ce présent perpétuel, Antoine Debacq. Effectivement, des films très longs. Alors, le plus long, c'est Out 1, mais d'ailleurs, il l'a fait en version raccourcie aussi par la suite.
Oui, il a fait un court-métrage de 80. Oui.
Mais sinon, les films étaient quand même assez longs la plupart du temps.
Je pense que c'est justement pour pouvoir capter ce film en train de se faire. Il a besoin du temps, il avait besoin de laisser comme ça s'installer quelque chose entre les acteurs, sur le plateau, que ça existe. Et ça, pour que quelque chose existe, la vie s'empare d'un plateau, c'est évidemment, ça ne doit pas être entre guillemets corseté par un scénario préexistant. Et d'autre part, il faut du temps pour que tout se défasse et se refasse. Et le motif un des motifs majeurs, en tout cas, qui est fil conducteur, comme ça, du cinéma de Rivette, c'est la répétition théâtrale. Et c'est pas du tout un hasard. On dit souvent, Rivette, entre cinéma et théâtre. En fait, plus qu'entre cinéma et théâtre, puisque Rivette n'est pas du tout du théâtre filmé, c'est installé au cœur de la machine cinéma, hein, qui est une machine souvent assez lourde, même s'il travaillait dans des conditions rapides et souples, c'est installer au cœur de cette machine la répétition théâtrale, c'est-à-dire le jeu, quelque chose qui est absolument pas fermé, qui peut à chaque fois repartir dans une autre direction, se contredire, et la répétition théâtrale, c'est exactement ça. Et depuis Paris nous appartient jusqu'à Va savoir ou jusqu'à
la bande des
toute
cartes
sa,
aussi.
Toute, voilà toute sa toute sa toute sa carrière, toute sa toute son œuvre, L'amour fou évidemment, est complètement hanté par cette idée que par la répétition, tout est encore possible. Rien n'est bouclé, rien n'est achevé. Et c'est peut-être aussi à la fois la force et la fatalité de Rivette, c'est-à-dire de ne pas jamais vouloir et jamais vraiment réussir à finir un film. Et donc les films sont toujours ouverts jusqu'à durer 13 heures, bien sûr. Mais le montage chez Rivette était quelque chose de très long parce qu'il était constamment relancé par ce désir de réouvrir et de relancer le film par le jeu. C'est quelque chose de très très ludique.
Moi j'aimerais, madame, un vainqueur furieux qui est toujours tout sanglant se présente à mes yeux, qui la flamme à la main et de meurtres avides met en cendres Lesbos.
Si vous l'aimez, Percy.
Corinne, qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois?
Qu'il fallait que j'éprouve physiquement le sentiment.
Alors c'est pour ça que tu joues comme une furie?
Pas du tout. Pour moi, Irifil, c'est quelqu'un qui se défend.
C'est ce que tu passes ton temps à faire, toi, te défendre. Tu joues sur un ton, tu cries, et on n'entend rien. C'est d'une intensité de bazar.
Écoutez, si je suis nulle, c'est pas la peine que vous perdiez votre temps.
C'est pas moi qui perds mon temps, c'est toi. Reviens.
Le théâtre et le cinéma, le jeu, l'art dramatique, tout est dans cet extrait précisément de La bande des quatre, Nathalie Richard, dans lequel vous jouiez le quotidien de quatre étudiantes en art dramatique.
Oui, oui, même de cinq, hein, en fait, puisque je suis la cinquième. Oui, oui, qui étudie Corneille, Racine, qui était Jacques avait une grande passion pour l'Alexandrin et le... Mais de tout ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, je pense que c'est quelqu'un aussi qui était toujours en rapport avec qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de poétique dans le cinéma, dans la vie. C'est pour ça aussi peut-être que plutôt que de rencontrer des personnages, même dans La bande des quatre, même si on est sur une scène de théâtre, c'est plus être tout d'un coup avec ces gens qui vivent comme ça, qui pensent comme ça, qui parlent comme ça, quoi. C'est vrai, quand les gens, après, reparlent des films de Jacques, ils ont plutôt l'impression d'être avec une sorte de rêverie, hein, c'est, enfin, une histoire, etc. Mais surtout avec des gens qui leur sont presque, comment dirais-je, oui, proches, hein, plus que l'idée d'être dans une fiction avec des personnages au sens classique du terme. Et le théâtre, ben voilà, c'était ça. Et puis après, le film termine par Marivaux. Mmh. Et pour moi, c'est, ben, en fait, quand j'ai fait la première... J'étais au conservatoire encore à l'époque, et donc pour passer les essais, j'avais passé un passage de Attali, parce que j'étais en plein dans les Alexandrins, donc finalement on avait une passion commune. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur le film, et là par contre j'ai fait Corneille. Et Jacques, c'était vraiment ce que dit Bulle par exemple sur le fait de ne pas être frénétique, ça c'était vraiment quelque chose chez Jacques.
Bulle, c'est Bulogier qu'on vient d'entendre dans l'extrait.
Il avait cette chose, et c'est vrai, même quand il disait des poèmes, par exemple, en dehors du phrasé incroyable et de la rythmique qu'il avait, c'était d'essayer d'avoir ce feu, mais toujours d'être en réaction, c'est-à-dire jamais se laisser submerger par ses sentiments. Ça, c'était quelque chose que Jacques ne voulait pas, enfin, ne voulait pas entendre. Il trouvait qu'il y avait d'autres subtilités à avoir. On pouvait avoir tout le désarroi et l'inquiétude et la tristesse possible, mais elle devait se... comment dire, se être encerclé, peut-être de façon extrêmement dure ou très douce, mais voilà, ou sinon c'était la joie, la spontanéité et tout ça. Mais donc il m'a vraiment appris en tous les cas à organiser le chaos, qui est une des leçons dans le dans le cours de théâtre.
Dans le cours de théâtre, et qui est aussi une des leçons qu'on entendait dans le premier extrait, dans Paris nous appartient, mm-hmm. avec cette idée que les films semblent être faits justement de pièces et de morceaux, mais que tout se lie et que c'est la mise en scène d'un monde chaotique, disait le personnage dans Paris nous appartient. Et ça, c'est peut-être autre chose que on comprend a posteriori quand on travaille sur Jacques Rivette et quand on revoit la plupart de ses films, c'est à quel point son œuvre donne l'impression d'avoir connu un certain nombre de mues. Il est difficile de trouver, oui, de métamorphose. Mmh, difficile c'est... finalement de dire, ah oui, l'œuvre de Rivette, c'est ça. C'est, il y a un point commun, il y a des motifs récurrents, peut-être. Bon, la répétition, vous disiez Antoine de Bach, mais on a un peu l'impression de pas d'un manque de cohérence, parce que là, ce serait un jugement de valeur, pas forcément, ce serait péjoratif, c'est pas du tout ça, mais effectivement, c'est difficile de savoir par quelle boule le prendre ou quels sont les points communs entre tel et tel film, entre telle ou telle époque, Antoine de Bach.
À travers cette multiplicité de facettes, et évidemment, il y a peut-être quelque chose qui fait lien. C'est la volonté de toujours expérimenter, d'être toujours dans une expérience. Alors, la répétition de théâtre, c'en est une, évidemment, mais aussi l'improvisation. Voilà, à chaque fois, relancer une manière qui ne sera finalement dont la pertinence sera le fait qu'elle ne soit pas contrôlable et connue à l'avance. Voilà, c'est ça l'expérience. C'est-à-dire, on ne sait pas absolument ce qu'on va trouver à la fin, ce qui fait d'ailleurs l'intérêt et la qualité parfois inégale des films de Rivette.
Oui, mais même ça...
À l'intérieur d'un film, c'est parfois, on a même parfois un peu peur pour les acteurs et les actrices. C'est presque on souffre un peu pour eux parce qu'on les sent vraiment. Et puis tout d'un coup, parfois à l'intérieur même de la séquence, c'est repris et Rivette la récupère grâce au cinéma, grâce à la mise en scène, quelque chose, et ça devient tout d'un coup de pathétique, ça devient génial. Et c'est ça aussi le cinéma de Rivette.
Même ça a changé, puisque Nathalie Richard, vous nous disiez non, mais on avait quitté dans les années 90, puisque vous avez fait une série de films vraiment entre 92 et 95. Hein. À cette époque-là, il n'était plus dans cette façon de faire des films, il les faisait autrement, vous n'improvisiez pas.
Ah, du tout. Enfin, je veux dire, on avait. Par contre, chaque matin, on pouvait revoir les dialogues, mais on.
Ah, mais tout était écrit.
Ah, mais il était là-dessus très, très pointilleux. Enfin, je veux dire, c'était vraiment. Autant, justement, il y a cette sorte de métamorphose perpétuelle, d'élan où on ne sait pas où on va, mais je pense qu'aussi, c'est vachement important, quand même, aujourd'hui, de se dire qu'il y a quelqu'un qui dit le cinéma, c'est pas que cette idée-là. Et c'est quelqu'un, quand vous dites, Antoine, il allait au cinéma, mais voir énormément de films. Il adorait des films.
Curieux de tout.
J'adore, mais ça, je ne pourrais pas le faire. Donc, c'était aussi vous donner cet éclectisme, cette curiosité. Mmh. C'était ça. Et qu'on n'est jamais attrapable. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités de jeu. Mais je voudrais dire aussi, quand même, quand on voit les films de Jacques, c'est pas que... Il y a quand même effectivement des plans. Moi, il me reste, et pas dans les films forcément dans lesquels j'ai tourné, mais des cadres où ça rejoint une histoire du cinéma, parce qu'il connaissait quand même très très bien. Et c'est pas simplement la place du critique ou ce que j'ai eu l'occasion de dire quand il parle de Misoguchi. Mais j'ai des souvenirs dans L'amour fou ou dans Secret défense, mais d'une émotion cinématographique. Et je pense qu'aussi c'est peut-être pour ça que il y a une sorte de quotidien, puis tout d'un coup, qu'est-ce qui fait qu'un plan ou une couleur, parce qu'il y avait quand même tout un travail des couleurs aussi, je dois dire, qui faisait qu'on passait à un autre stade. Il y a quelque chose qui se transcendait. Et ça reste mystérieux. Enfin, ça reste mystérieux, non ?
Pierre-William Glenn, là je me tourne vers vous nécessairement.
Bien sûr que c'est mystérieux. On ne sait pas du tout, je veux dire, l'idée de l'improvisation, c'est marrant, c'est la méthode de Mike Lee, il répète 6 mois. Improvisation complète, on écrit tout et puis après les acteurs peuvent plus du tout changer un mot. Et ça vient, il a eu une influence énorme, Rivette, sur beaucoup de gens, sur cette disponibilité, éclectisme. Les fenêtres ouvertes sur le monde sont toujours différentes, c'est toujours des mondes différents qu'il nous donne. Et puis en fait, c'est quelqu'un, enfin pour moi, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est que on apprend des choses sur soi quand on voit les films. Et Rivette, dans le rapport avec le metteur en scène, c'est très inconscient. On met 30 ans à s'en rendre compte, 40 ans, mais c'est sûrement la personne qui m'a le plus structuré. Et c'est assez drôle, c'est ça qui est formidable dans le cinéma, c'est que les films restent dans le temps et on revoit les films, on revient 40 ans en arrière, on est exactement au même moment, et on se dit, tiens, qu'est-ce qui m'a structuré pour la suite? Rivette est sûrement la personne, et de loin, qui m'a le plus structuré, et qui a d'ailleurs déterminé la carrière, enfin les films que j'ai faits. C'est curieux. Alors, sur le principe de l'image, il y a ce qui tient sur l'image, il y a ce qu'on prépare, un peu comme l'écriture, parce qu'il y a une recherche de rendu d'image que on a, nous, dans la tête, les opérateurs dans la tête, et proposent au réalisateur, et il y a ce qui tient de ce que le réalisateur impose en disant c'est comme ça, c'est pas autrement. Sur Yvette, j'ai l'impression, même dans son rapport avec William Lubchansky, là, qui a fait beaucoup de films, j'ai l'impression qu'il y avait énormément de propositions qu'il acceptait de la part de Lubchansky, le sentiment. Bon, je connaissais bien William, mais j'ai le sentiment, et par contre, lui, il était excité partout, donc même... Lui, Rivette était excité partout, par la couleur, par le décor, et il pouvait changer complètement. Enfin, c'est ce que me disait William, parce que moi, ça s'est pas passé comme ça du tout.
Vous n'avez d'ailleurs tourné qu'un film avec.
J'ai tourné qu'un film. Oui, oui.
Bah, il m'a, long, il m'a lancé, certes,
mais... Oui, mais c'est comme si j'en avais fait 8.
Oui, c'est ça.
C'est le film le plus long. C'est 8 fois 1h30.
C'est l'ancêtre des séries. Là, il y a un côté visionnaire.
Il était visionnaire, Jacques, quand même. Mais même sur la jeunesse. De travailler avec des gens très jeunes, il l'a fait avant tout le monde, venant d'horizons extrêmement différents, sans même justifier pourquoi. De la position de la femme, non sans avoir de discours forcément sur la femme doit être comme c'est. Donc il était quand même vachement là.
D'où l'influence.
Et des allusions à Goldman, il a fait plein de Le Pont du Nord, il y a plein de... Il y a un point de vue, finalement, on sent qu'il est en rapport avec la réalité, quand même.
Bien sûr, d'où l'influence de Rivette sur beaucoup de cinéastes, comme il a été dit. Mais moi, je parlerai juste d'une influence qui est assez peu connue et qui est peut-être sur le cinéaste, avec un grand C, c'est sur Godard. Au milieu des années 60, Godard est fasciné par les expériences de Rivette et veut faire du Rivette. Et bon, il y a toute l'expérience autour de la religieuse où il prête en quelque sorte Anna Karina à Rivette. Ensuite, il y a cette idée que
la religieuse de Diderot qui a été censurée.
Censurée en 66.
Godard ayant signé une lettre incendiaire à Malraux disant ministre de la culture.
Donc voilà, je pense que Rivette est un cinéaste décisif, hein, aussi bien dans son œuvre critique que par ses films, par l'aspect visionnaire et l'aspect aussi, l'influence qui les détermine sur beaucoup de cinéastes et d'artistes.
On peut voir et revoir les films de Rivette, il faut quand même prendre un petit peu de temps. Donc d'ailleurs ce soir, sur Arte, Arte rediffuse Ne touchez pas à la hache avec Guillaume Depardieu et Jeanne Balibar, adapté de la Duchesse de Langeais de Balzac à 22h20. On peut voir ou revoir Out 1, donc, et puis un document de Robert Fischer, Les Mystères de Paris, qui parle très bien de Rivette, de la même façon que Cinéaste de notre temps de Claire Denis. Mais ça, je ne sais pas si on peut le voir, peut-être sans doute en DVD. Et tous les films, bien sûr, de Rivette sont disponibles en DVD. Un grand merci à tous les trois, Antoine Debac, Nathalie Richard et Pierre-William Glenn.
Merci, Caroline.
Merci.
Merci bien.